Salut, c'est JVD. La guerre en Irak sera-t-elle le succès médiatique de l'année? Ça, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, il y a déjà la pub à la télé.
Bonjour. La guerre en Irak.
La guerre en Irak.
La guerre en Irak.
La fête commence tout de suite dans votre cœur.
Ah, d'accord.
La guerre en Irak.
Triple action.
Aux soins. Céramides, protéines.
Des professionnels.
Garage le pavé.
La guerre en Irak.
Avec Saddam Hussein.
Et George Bush.
C'est bon d'avoir les boules en toute sécurité.
La guerre en Irak.
Elle est gratuite la première année.
Avec une édition spéciale de son album.
La guerre en Irak.
Un film brûlant en vidéo et DVD.
La guerre en Irak.
Un double CD indispensable.
Réservé à l'adulte.
Pour le bonheur de vos yeux.
Je viens d'avoir une idée pour arrêter la guerre. Il faut que le pape se présente, se porte volontaire comme bouclier humain en Irak. Cible impossible à atteindre, il se baladerait dans différents endroits. Il désamorce les envies guerrières de Bush parce qu'il ne peut pas prendre le risque de tuer le pape. Il sacrifie sa vie éventuellement, ses magnifiques martyrs, pour un chrétien. Il réconcilie les religions puisque les musulmans verront ça pour eux comme un signe plus que fort. La guerre s'arrête, c'est impossible, et c'est quand même mieux de sacrifier sa vie à son âge que les petits jeunes qui y vont. Voilà, c'était mon idée. Au revoir.
Je viens d'écouter votre émission sur la mort de Staline. Moi, le jour de la mort de Staline, j'avais 26 ans. J'étais communiste et j'ai des souvenirs qui ne correspondent pas du tout à ceux que vous avez rapportés à l'antenne. Et en plus, ce que je regrette, c'est que le brave camarade qui a chanté la chanson et qui a voulu être témoin, il témoignait, il a fait un faux témoignage sans le vouloir. C'est pas Marty qui a fait le discours, c'est Jacques Duclos qui a fait le discours au Veldiv. On était 40 000 au Veldiv pour la mort de Staline. Et je vais d'ailleurs vous écrire une lettre, parce que ce que j'ai à vous raconter serait trop long à mettre sur un répondeur. Bonsoir, Monsieur Mermet.
Bonjour, aujourd'hui, mercredi, jour des enfants, jour des profs qui corrigent leurs copies d'une main et qui écoutent ton émission de l'autre. Alors, le meilleur des mondes, c'est pas de Wells, c'est de Aldous Huxley, dont mon petit Robert précise d'ailleurs qu'il donne, que le meilleur des mondes donne de l'avenir, une vision pessimiste en contraste avec l'optimisme de Wells. Voilà, donc désolé de jouer les Jiminy Cricket, mais je pense que c'est important de faire la différence. Au revoir.
Eh oui, pan sur le bec. J'ai confondu la guerre des mondes et le meilleur des mondes. La guerre des mondes, c'est de Herbert George Wells. Et le meilleur des mondes, c'est d'Aldous Huxley. Vous ne laissez rien passer et c'est très bien. Aujourd'hui, on continue avec la mort du petit père des peuples, l'homme que nous aimons le plus, c'est-à-dire Staline. Il y a 50 ans, mourait Staline, et aujourd'hui, c'est le deuxième volet. Un auditeur nous dit, en 1953, ma mère travaillait au comité d'entreprise des usines voisins à Issy-les-Moulineaux. Georges Marchais était tourneur aux usines voisins et membre du comité d'entreprise. À la mort de Staline, il fit réunir le personnel des usines dans la rue devant le comité d'entreprise pour faire une minute de silence. Georges Marchais avait chaussé des sabots peints et vernis qui représentaient des têtes de canard et j'avais 3 ans. C'est superbe, hein, le gars avec des têtes de canard et Pierre Daguet qui avait 3 ans des images. Des souvenirs, mais beaucoup plus que ça, lors de cette mort de Staline, pas seulement en URSS, on a des témoignages, vous avez écouté hier, mais aussi chez nous en France. Mais avant d'assister aux funérailles, la larme à l'œil, on va écouter quelques autres de vos messages. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37.
À propos de Staline et des émissions là qui sont faites en ce moment, en particulier par Daniel, mais d'autres, on a beaucoup parlé des intellectuels français, aveuglés ou alors hypocrites, Éluard en particulier, l'ode à Staline, Aragon, dont je voudrais citer un monument qui s'appelait Magnitogorsk 1932, qui figure dans une anthologie de Pierre Segers d'ailleurs. Mais ce que je voulais, c'est parler des quelques exceptions. J'ai entendu parler de Gide, évidemment, qui a fait des réserves après son voyage en URSS en 1936. Par contre, je n'ai jamais entendu prononcer le nom d'Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et l'Infini, qui date de 1941 et qui a été pour moi, qui m'a sauvé du communisme, je veux dire. J'avais 17 ans en 1965 quand j'ai découvert ce bouquin. J'étais tout près d'adhérer aux jeunesses communistes et ce bouquin et ce mec. Il a pas fait que ça, hein. J'ai pas le temps, j'ai que 2 minutes. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle d'Arthur Koestler, du Zéro et de l'Infini, et puis éventuellement du reste de son œuvre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été complètement oublié et qui ne le mérite pas. Voilà, je vous remercie et puis salut à Daniel. Et puis faut continuer comme ça.
Bonjour. Émission sur la mort de Staline m'a ramené bien des années en arrière. J'ai été élevée dans une famille de militants communistes des années 40-50. Et du plus loin que je me rappelle, je revois les photos de Staline et de Thorez qui trônaient dans la salle à manger, qui servait aussi d'atelier à mon père, ouvrier cantier. Ces deux portraits, c'était en quelque sorte l'équivalent du crucifix qu'on devait trouver dans les maisons des cathos de l'époque. On peut aujourd'hui parler d'aveuglement, mais il y avait alors un tel besoin de croire en des lendemains meilleurs qu'on doit comprendre que bien des gens se soient laissés abuser. D'autant que dans le milieu ouvrier, la discipline du parti était telle qu'il était impensable de remettre en cause le petit corps des peuples. Et il est vrai que pour beaucoup de militants d'alors, ce qu'ils pensaient être le vrai communisme est mort avec lui. Lorsque dans les années 60, j'ai voulu ouvrir le débat avec ma famille, je me suis heurté à un mur. Et aujourd'hui encore, je retrouve le même refus de débattre. Staline a été un véritable dieu pour toute une génération, en France aussi. Difficile sans doute de brûler ce qu'on a adoré. Aussi, quand on ose crier ni Dieu ni maître, on ne peut passer que pour un vilain petit canard. Mais j'assume. Salut.
Salut, la France en direct de Lausanne en Suisse, où les gens se mobilisent contre la guerre en Irak. Il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que ça se mobilise comme ça. Continuez comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Salut là-bas si j'y suis, salut France Inter.
Les chemins sont pleins de pierres, il n'y a pas d'asphalte pour les Roms.
Les Roms, oui, vous avez entendu, les Roms, loin de l'Irak dans l'espace, loin de l'époque de Staline dans le temps. On va passer par Achères. Achères, c'est une petite commune dans la banlieue parisienne. Si vous vous souvenez, le 6 décembre dernier, nous avions là-bas fait un reportage au sujet des Roms de Roumanie qui, à la limite de la ville d'Achères, essaye de survivre, c'était au moment, si vous vous souvenez, de l'évacuation, entre guillemets, mais des guillemets assez musclés, des Roms vivantes à Choisy, tout près de Paris. Et on a appris que ce matin, à 6h, eh bien, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation du camp des Roms d'Achères. Ça nous touche beaucoup parce qu'on avait trouvé à l'époque que la municipalité faisait ce qu'elle pouvait par rapport à ce sujet, entre les Roms, entre les habitants de la ville d'Achères, et qu'une réflexion qui se limitait pas à un petit geste de charitable de bonne conscience, mais une réflexion un petit peu plus large sur les conditions d'accueil des Roms et sur ces problèmes qui évidemment sont très importants. Alors, on a joint par téléphone le maire d'Achères, monsieur Outremont. Alain Outremont, vous êtes le maire d'Achères.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé au sujet de l'évacuation du camp des Roms?
Bien, je tenais à être présent au moment de l'expulsion qu'on craignait depuis hier soir, suite aux différents contrôles de police qui ont eu lieu ces derniers temps. Alors ce matin, je suis arrivé sur le terrain vers 5h. Il y avait sur place un collectif de soutien constitué d'associations caritatives. Eh bien, manu militari, on a poussé les gens brutalement et on les a. J'ai même entendu des injures. J'estime que c'est un acte violent, d'une grande violence. J'ai vu des images ce matin que je n'oublierai pas. J'ai vécu une matinée très douloureuse avec, dans le regard des femmes et des enfants, beaucoup de détresse, d'inquiétude et d'interrogation, y compris à mon égard, pour savoir eh bien, où ils allaient dormir ce soir. Il y avait ce matin dans les écoles d'HR des enfants qui sont scolarisés et qui avaient donc rejoint leur enseignante et que les forces de police donc sont allées chercher dans les écoles pour les faire rejoindre leurs parents dans le campement pour leur départ.
Alain Outremont, ces Roms étaient sur le territoire d'HR depuis quand ?
Ces Roms étaient sur le territoire d'HR depuis 2 ans et ça fait donc autant de temps que nous nous battions pour que, à la fois, il y ait des premières mesures d'urgence prises pour régler le problème d'hygiène, le problème sanitaire, le problème de santé, les problèmes de soins, qu'ils aient la nourriture et les vêtements, mais qu'ensuite nous exigeons effectivement que tout soit mis en œuvre pour, mettre fin à ce campement. Et je peux dire que sur ce point de vue, nous étions tout à fait d'accord avec les pouvoirs publics. Il fallait mettre fin à ce campement dans l'état où il était. Mais à condition, évidemment, qu'il y ait un traitement des demandes d'asile et que donc, en l'attente, il y ait des mesures d'hébergement décentes qui soient prises. On m'a demandé l'expulsion. Je me suis refusé cette mesure, tout simplement parce que s'il s'agissait, sans solution derrière, de retrouver ces gens dans la rue, sur les chemins errants, ou alors dans d'autres villes, nous n'aurions fait que déplacer le problème sans le régler dans le fond.
Est-ce que la présence de ces Roms troublait l'ordre public ?
Non. Pour reprendre les propos du commissaire de police que je rencontre régulièrement, il n'y a pas eu une augmentation de faits délictueux sur HR depuis l'arrivée sur Roms. Je peux même dire que l'année dernière, en 2002, nous avons eu une baisse des incivilités et de la petite délinquance sur HR.
Mais est-ce que vous avez eu de la part de vos concitoyens des demandes ou des protestations ou des manifestations à leur égard ?
De la part de la population ?
Oui.
Non. Non, il y a bien eu effectivement ici ou là quelques mécontentements exprimés par rapport à la présence de gens venus d'ailleurs, mais je dois dire que dans l'ensemble, la population d'Acer qui avait commencé à exprimer une grande solidarité quand ces Roms sont arrivés, eh bien n'ont pas réagi de façon hostile, peut-être parce que nous avons régulièrement fait le point de la situation, expliqué les choses, expliqué les difficultés du problème, que c'était un problème qui en fait dépassait le cadre d'une commune, d'un département, c'est un problème de pays à pays. Je suis évidemment très inquiet sur les flux migratoires qui, si on ne porte pas assistance aux pays en difficulté, à condition d'exiger en retour qu'ils traitent leur population et notamment leur minorité avec tout le respect qu'ils leur doivent, eh bien, je crains que nous ayons à retrouver régulièrement ce problème de flux migratoire. J'ai pu constater ce matin des Roms désespérés à l'idée, pour ceux qui n'étaient pas en situation régulière et pour les autres qui sont demandeurs d'asile mais qui craignent que leur demande soit rejetée, très désespérés à l'idée de retourner en Roumanie où, disent-ils, ils trouveront des conditions pires que celles qui étaient celles qu'ils vivaient dans ce campement où pourtant les conditions de vie sont tout à fait désastreuses.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. 5 mars 1953, la mort de Staline. Acier.
Flight number 2, arriving from...
Le 5 mars, à 9h50 du soir,
après une grave maladie, est décédé. Le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Staline.
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Мы копали на Аку, на станции Аку. Тут говорят, что Сталин помер. Один заключенный сказал, туда ему и дорога, заматерился. Его вывели, я думал, его расстреляют, но почему-то...
Le jour où Staline est mort, j'étais en train de travailler dans une petite gare sur la voie de chemin de fer du BAM. Il y a quelqu'un qui a dit, Staline est mort. Et je me rappelle, il y a un des aigles qui a crié, ben c'est bien pour que ce chien il crève, c'est bien comme ça qu'il soit mort.
12 дней и 5, 18 марта я освободился.
J'ai été libérée le 18 mars 53. Je suis restée en camp 13 jours encore après la mort de Staline.
Что без Сталина невозможно жить.
J'avais l'impression, mais pas que moi, tout le monde avait l'impression qu'on ne pouvait pas vivre sans Staline. Comment peut-on vivre sans lui?
Pour nous, c'était pas une idole tout à fait, mais ça pouvait ressembler parce que c'était quelque chose qu'on espérait un jour voir dans notre pays.
Cette aura, l'aura de l'URSS, était une religion forte, une croyance.
Je me souviens justement du moment quand j'étais comme ouvrier manœuvre dans une ferme d'État, là-bas, dans les profondeurs de la Sibérie, quand on a donné la première fois dans les journaux, on a annoncé que la santé de Staline, les docteurs l'ont trouvée menaçante, oui, et nous avions peur même de nous dépêcher d'état dans cet éclat d'espoir et de joie qui devait briller dans nos yeux. Quoi? Le monstre a expiré? Vraiment, c'est ce que nous pensions chacun et nous baissions les yeux pour ne pas nous trahir.
Ces images se passent de commentaires.
'91, avec l'effondrement de l'URSS, on passe du rouge coco au rouge coca et on s'empresse de jeter l'eau du bain communiste avec le bébé de la révolte. Vous voyez à quoi ça mène? Moi aussi, j'ai rêvé du grand soir et de matin qui chante, mais ça mène au goulag, tout ça, au despotisme, l'expérience est flagrante, c'est la fin de l'histoire, il n'y a pas d'alternative. Fin de l'illusion tragique, fin de l'utopie criminelle. Pourtant, les cocus, les désenchantés, les perdants du grand soir sont nombreux dans notre pays. La France, fille aînée du stalinisme, et ça fait du monde, et ça fait un monde qui, depuis, en silence, n'en finit pas d'avaler l'invisible mais énorme couleuvre. Dans ce grand effondrement, quelque chose est resté coincé dans les gravats, c'est le futur. Plus de futur, plus de promesses. Nous sommes les orphelins des demain. Et ça ne durera pas. L'homme ne vit pas seulement que de pain, mais aussi de rose et d'avenir. Alors, en évoquant aujourd'hui la mort de Staline, avec Thierry Scharf, on n'est pas là pour tirer sur un cercueil, c'est fait depuis bien longtemps, l'histoire est connue et reconnue. Mais nous voulons rouvrir le tiroir du pourquoi.
Говорит Москва.
Alors pourquoi? Pourquoi les choses se sont produites ainsi? Pourquoi ce long aveuglement? Pourquoi cette religion? Pourquoi cette soumission à cette tyrannie alors que l'on savait? On savait ici, on savait là-bas aussi. Où ça? Eh bien oui, en URSS. En allant à Stalingrad, en essayant de d'évoquer la mémoire de cette bataille de Stalingrad il y a 60 ans, on est dans l'hésitation entre la soumission à la terreur, la soumission à l'autorité, et puis un patriotisme réel, profond. En tous les cas, c'est Stalingrad qui va fonder le culte de Staline. C'est ce que nous racontera Dominique de Santi, qu'on a rencontré hier, qui nous a expliqué hier comment elle a été une stalingradienne avant de devenir une stalinienne. Et la victoire de Stalingrad a relancé la figure, alors cette fois-ci à l'échelle mondiale, de Staline et de son URSS. Aujourd'hui, rencontré lors de cette célébration du 60e anniversaire de la bataille de Stalingrad, voilà comment des anciens, des vétérans, parlent de Staline.
Tout le monde pleurait. Il n'y avait pas une seule personne qui ne pleurait pas, qui ne regrette pas. Si Staline est mort, on va tous mourir.
Vous avez cru ça?
Oui.
Staline это была наша жизнь.
Parce que Staline c'était notre vie.
Вы понимаете?
Parce que vous comprenez?
Настолько это было в жизни так. Я помню, каждого 1 апреля каждого года после войны было снижение цен. Это как закон.
Chaque 1er avril, il y avait une baisse des prix.
Вы понимаете, это человек, который заботился о народе.
Parce que c'était vraiment quelqu'un qui se préoccupait du peuple.
Старался все сделать доброе, хорошее, именно вот для простых людей,
pour les gens simples.
Если бы был Сталин, такого разрухи Советского Союза не было.
Сталин jamais il y aurait eu la destruction de l'Union soviétique, il aurait jamais laissé faire ça.
Что мы рассыпались как мурашки, каждый свое, это разве это можно?
Et là, on est tous éclatés, dispersés comme des fourmis dans les
coins. Если бы был Сталин жив,
si Stalin avait été vivant,
этого бы никогда,
jamais,
никогда не
jamais ça aurait eu lieu.
Мы сейчас молим Бога, чтобы
maintenant,
такая
Dieu,
рука появилась, как рука
Dieu
была Сталин.
Pour qu'une main de fer vienne,
он,
comme Сталин.
Он жесткий был человек.
C'était quelqu'un de dur, d'exigeant.
Как вам сказать? Справедливый.
Juste. Quelqu'un de juste.
Его и боялись,
on avait peur de lui,
il
était craint et respecté. On l'aimait.
Vous знаете,
on l'aimait en craignant, en respectant. Vous savez,
я вспоминаю
je me souviens après la guerre, les années d'après-guerre, vous savez.
Он был справедливый.
Il était tellement juste.
Знаете, как
вы трудности. Après la guerre, il y avait beaucoup de difficultés. Les gens avaient faim.
У кого-то не хватало.
Beaucoup de gens avaient... Il y avait des pénuries.
Разворовали.
Les gens avaient été bombardés. Les gens étaient affamés. Et vous savez quoi?
Сталин издал указ.
Сталин a édicté un décret.
Если кто украдет 100 грамм хлеба,
si quiconque или кто украдет с поля 100 грамм de pain,
зерна,
ou 100 grammes de grains dans un champ, dans un champ de blé,
без суда и следствия,
il sera exécuté immédiatement sans aucun procès.
Le serment des mineurs du Pas-de-Calais est le serment de tous les travailleurs de France, le serment de tout un peuple qui se souvient et qui crie « Vive Staline !» Gloire et longue vie au chef du prolétariat international, aux dirigeants de la révolution socialiste, aux libérateurs des peuples, aux premiers des combattants de la liberté et de la paix. prie de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous assurons de notre confiance inébranlable. Vive jamais! Vive à jamais notre cher et grand Staline, vive le communisme!
Staline, géant de la pensée et de l'action, Staline, philosophe, Staline, savant, Staline, illustre stratège, Staline, protecteur des lettres et des arts, Staline, le plus humain des hommes, Staline qui vivra éternellement, à qui nous serons à jamais fidèles. Staline est mort, lit-on dans le journal L'Humanité le 10 mars 1953, mais sa cause est immortelle, il vivra toujours avec les bâtisseurs de l'avenir. Son nom flottera comme un drapeau sur les nouveaux chantiers, sur le bruit des turbines et les vagues des nouvelles mers. Dans toutes les victoires de l'idéal invincible du communisme. C'était quelque chose, ça vibrait de partout et... Cela dit, c'est pas sans rappeler certains autres cultes, à commencer par l'Église, en continuant par des cultes, le culte du maréchal Pétain durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des petits cadeaux qui devaient se faire au maréchal. Il était conseillé amicalement aux petits-enfants d'ouvrir, de découdre leur matelas, d'y prendre une poignée de laine et de l'envoyer au maréchal, afin d'envoyer toute cette laine à nos prisonniers français en Allemagne au titre du travail obligatoire. Mais là, quand même, on est allé encore plus fort. Lors de du 70e anniversaire du grand camarade Staline, le petit père des peuples, l'homme que nous aimons le plus, eh bien, le Parti communiste français, à travers tout le pays, a organisé une grande collecte de cadeaux. Et partout, dans les usines, dans les ateliers, partout, on a fabriqué ou on a acheté, on s'est cotisé pour faire quelque chose pour Staline. Un ancien militant raconte comment dans une ville du Nord, on s'était cotisé, on n'était pas bien riche, pour acheter un vélo, oui, un vélo au camarade Staline pour lui envoyer là-bas, à Moscou. Et puis quand même, les gars se sont dit, est-ce qu'à 70 ans, Staline fait encore du vélo? Peu importe, c'est bien, c'est beau. Dominique de Santi, qui est écrivaine, c'est une dame, et historienne, intellectuelle, a été membre du Parti communiste français. Elle était journaliste dans la presse communiste de ce temps-là, et elle se souvient de ce temps-là.
Est-ce que nous avions, dans l'ensemble, le culte de Staline? Je dirais oui. Parce que pour le 70e anniversaire de Staline, ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Et je vous avoue que dans notre petit milieu d'intellectuels qui étions tout à fait convaincus, qui étions tout à fait militants, on ironisait quand même un peu. Parce que l'envoi des cadeaux à Staline, des manifestations auxquelles nous prenions part. Mais ça nous paraissait quand même limite du ridicule. Et en même temps, on y croyait, c'était très complexe. Et c'est vrai qu'on pensait que Staline était un grand homme et que le marxisme dialectique dont il était le plus brillant représentant, était une manière de raisonner nouvelle et que par conséquent toutes les philosophies bourgeoises ne pouvaient pas se comparer à cette dialectique-là. Donc on pensait que Staline était un savant d'un type nouveau, ça se disait beaucoup, l'homme nouveau.
Camarade, tu n'es pas seul, au plus profond de ta détresse, tu n'es pas seul.
Quel sombre, l'avenir t'apparaît noir, la vie te semble sans espoir. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.
Vous n'êtes pas seul, vous qui croyez désespéré.
La vie pour vous tous sera belle, parce que nous le voulons ainsi.
La vie cessera d'être cruelle,
quand vous serez tous réunis,
paysans, ouvriers,
chômeurs,
jeunes gens et jeunes filles,
fils du peuple,
amis, camarades,
le Parti communiste vous appelle.
Paysans, ouvriers, chômeurs,
jeunes gens et jeunes filles,
fils du peuple,
amis, camarades,
entendez la voix du Parti.
Allez lutter pour votre cause.
Venez prendre la vie en main.
N'attendez pas le temps prêt.
Le Parti communiste vous appelle
à prendre l'avenir en main.
Camarades, la vie est à nous.
Camarades, venez avec nous.
Vous vous souvenez des cadeaux?
Ah, je me souviens très bien des cadeaux. Je dois dire que moi, j'avais envoyé plutôt un écrit qu'un cadeau. J'ai pas gardé cet écrit, mais soyez sûr qu'il était exalté comme il fallait. Il y a des militants intellectuels qui ont donné des peintures, des gravures, des objets de grande valeur. Ah oui, absolument. Et les artisans faisaient tous quelque chose de leurs mains, une sorte de chef-d'œuvre de compagnon, si vous voulez, pour Staline. Ah oui, Picasso a fait cadeau de, je me rappelle plus ce que ça représentait, mais un dessin. Mais il y avait des wagons et des wagons de cadeaux.
Dans ce petit atelier de Belleville, à quelques pas du mur des Fédérés, les ouvriers ont passé 300 heures à fabriquer avec application un cadeau pour Staline. 300 heures de repos converties en fatigue. Mais c'était 300 heures qui leur appartenaient. 300 heures plus précieuses qu'un diamant pour leur maître. Leur cadeau, un tour miniature. Et contents d'eux-mêmes, ils se sont réunis.
Dans notre atelier, tout le personnel lutte pour la paix. Nous n'avons pas oublié ce que nous avons subi pendant l'occupation nazie. Il faut comprendre qu'un de nos camarades a été interné, le fils d'un autre est tombé dans la lutte clandestine, la femme et la fille de notre directeur ont été déportées. La fille seule est revenue. La mère est morte en Allemagne. Voilà pourquoi nous apportons avec amour notre contribution à l'hommage qui vous est rendu. Chers camarades de Staline, vous, qui nous avez délivrés de l'oppression, à qui les ouvriers doivent la création du socialisme sur un sixième du globe, où maintenant la vie appartient à ceux qui la créent. Nous souhaitons longue vie au guide clairvoyant de la classe ouvrière, à Staline l'homme de la paix. On va la signer tous.
Ils étaient deux faucons, tout là-haut sur le grand chêne, qui parlaient tous deux dans le feuillage, tout là-haut, oui, dans le feuillage, tout là-haut. L'un s'appelait Lénine, l'autre s'appelait Staline, et tout autour d'eux, dans le feuillage des oiseaux, oui, dans le feuillage des oiseaux. Et le premier faucon disait à l'autre faucon, adieu pour toujours malgré ma peine, mon ami, oui, malgré ma peine, mon ami. Il nous faut nous quitter, l'heure hélas est venue, à toi les soucis, à toi la peine, pour toi seul, oui à toi la peine, pour toi seul. Ami, n'aie point de peine, répondait l'autre faucon, j'en fais le serment, je suis ta route, ton chemin. Oui, je suis ta route, ton chemin. Son serment a tenu le compagnon de Lénine, qui sema la joie dans la grande plaine et partout. Oui, dans la grande plaine et partout.
Ces images se passent de commentaires.
Ah, vous ne connaissiez pas les deux faucons. Eh ben voilà, c'est une découverte parmi les archives nombreuses de cette époque-là, archives sonores, mais aussi archives visuels, films, et alors beaucoup, beaucoup de choses imprimées. Ça a été des époques de haute propagande, enfin du moins. La propagande a changé aujourd'hui. Elle s'exerce d'une autre façon sur nos esprits et influence nos vies, mais d'une façon tout à fait différente. Mais ça a été des grands, grands moments de propagande. Et la propagande, c'est quoi? Ben, c'est penser qu'on peut mentir, qu'il faut mentir, que le but justifie tous les moyens. La fin justifie les moyens, y compris les moyens les pires, puisque c'est la bonne cause, puisque c'est pour le bien, puisque en plus c'est la guerre. Donc tous les moyens sont bons. Et eh bien les intellectuels, des intellectuels, pas tous. Attention, évidemment, au risque du touche-pourri, des intellectuels et de grands et de remarquables et d'érudits et de sensibles sont venus servir servilement le stalinisme français en connivence avec d'autres intellectuels à travers le monde. Ça n'était pas seulement les artistes, c'était pas seulement dans la littérature qu'on pouvait rencontrer ce genre de comportement qui était majoritaire dans le pays et qui exerçait dans notre pays un certain terrorisme intellectuel, mais c'était aussi bien des scientifiques ou des médecins, par exemple, qui venaient défendre Staline lors du complot des blouses blanches, par exemple, qui se produisait juste au moment d'ailleurs de cette mort de Staline. L'aveuglement n'a pas cessé avec la mort de Staline ni avec la déstalinisation. Il continue aujourd'hui sous d'autres formes, et notre boulot quotidien à tous, c'est pas seulement à quelques journalistes, c'est évidemment vous entendez le mot déjà à l'avance que je vais prononcer, c'est évidemment le mot vigilance. Dominique de Santi, que nous retrouvons, je le rappelle, était à l'époque qui est historienne, était à l'époque journaliste dans la presse communiste.
À la fin de 49, et d'une manière tout à fait fortuite, c'est pas moi qui étais désignée, je n'avais jamais assisté à un procès de dirigeants communistes dans les pays communistes. J'avais jamais été envoyée, j'étais journaliste, mais j'avais jamais été là-bas. Et j'étais persuadée, puisqu'on avait les aveux manuscrits, les traductions certifiées conformes, les signatures, les camarades qui y étaient et qui nous racontaient, oui, il était parfaitement correct, et il a dit, j'ai trahi le ministre de l'Intérieur hongrois, Reich, il a dit, je suis un traître, je suis un titiste, il a raconté avec détail comment c'était fait. Bon, et puis on m'envoie parce que celui qui avait été désigné n'était pas disponible, est tombé malade ou quelque chose comme ça, on m'envoie en Bulgarie.
Vous bossez pour quel journal à l'époque?
Alors, je bossais pour Action, qui était un hebdomadaire né de la résistance. Bon, alors là, j'étais envoyé par ce que nous appelions l'agence TASS française, c'est-à-dire le contraire de l'AFP, une agence de presse qui desservait tous les journaux communistes, et il y en avait dans tous les départements. Et puis, le procès se déroule avec tous les aspects, évidemment, d'un procès véritable, et je ne connaissais pas l'accusé principal, qui était un petit homme gris comme ça, qui avait été le chef du Parti communiste.
Ah oui.
Et le chef du gouvernement.
Ah oui, quand même.
Oui. Quand Dimitrov est mort. Oui. Alors, cet homme-là, cet inconnu, s'est levé et a dit « Les aveux ont été extorqués, je suis innocent. » C'est le seul de tous les procès. C'est le seul qui ait dit ça. Devant les journalistes, je dis que je suis innocent, les aveux ont été extorqués. Or, il était condamné à mort d'avance, je le savais. C'était donc un mort qui parlait, et je l'ai cru. Parce que c'est pas fréquent, un mort qui parle. Et là, ça m'a fait un coup. Et je me suis trouvé mal dans la cabine au moment de téléphoner mon article, ce qui fait que je ne l'ai pas téléphoné, cet article-là. Le lendemain, les dirigeants nous ont expliqué que cet homme voulait jusqu'à la fin faire du mal à son parti et qu'il avait trouvé ça pour faire encore du mal et que naturellement, il avait été condamné à mort et exécuté dans la nuit. Mais là, c'était autre chose que le réalisme socialiste en art et dans les lettres. Là, c'était la vie et la mort et c'était un homme dont je croyais qu'il était vraiment innocent. Je me suis dit, c'est une erreur judiciaire. Au pire, c'est une erreur judiciaire. Et les gens à qui j'en parlais me disaient, ben oui, c'est possible qu'il y ait eu une erreur judiciaire, mais tu sais, il y en a constamment, c'est quand même pas l'affaire Dreyfus, ton bulgare. Et pour moi, c'était un peu l'affaire Dreyfus. Mais alors là, si je privilégiais l'avenir, radieux naturellement, de la classe ouvrière et du prolétariat international et de tout le monde, du monde entier, le monde va changer de base. Si je privilégiais ça, qui était ma conviction, alors il fallait me lancer complètement et dire, il y a eu des procès dans les démocraties populaires, il y a eu des gens qui ont trahi, pas parler de mon bulgare. Et c'est ce que j'ai fait. Je croyais, je voulais faire croire. Et malheureusement, quelquefois, j'ai réussi. Il y a des questions qui sont primordiales et puis des questions de liberté formelle qui sont secondaires et qui peuvent s'arranger par la suite. Liberté réelle, c'était le combat pour la justice, c'est-à-dire le changement du monde. Et les libertés formelles, c'était les libertés bourgeoises. Voilà. Alors donc, à ce moment-là, je suis devenue vraiment stalinienne. Parce que, mettons que jusqu'alors, j'étais stalingradienne. Et là, je suis vraiment devenue stalinienne. C'est-à-dire que mon discours était vraiment stalinien. Et que je pouvais tranquillement écrire des choses comme Staline, le plus humain des hommes. Ça ne me gênait pas.
Le serment de tout un peuple qui se souvient et qui crie « Vive Staline !»
Vous savez, par exemple, les camps. Pour moi, c'était des camps de rééducation et de redressement, mais j'ai toujours pensé qu'il y en avait. Et j'ai toujours pensé que ça devait pas être drôle, parce que je connaissais les conditions de vie des démocraties populaires et l'Union soviétique où j'avais fait alors un voyage éclair avec une délégation de chez Renault. J'ai rien vu sauf ce qu'on nous a montré, alors là vraiment, mais la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, je connaissais le niveau de vie, je savais qu'il était très bas, et donc je n'avais pas l'impression du paradis soviétique. Je ne croyais pas à ça, mais je croyais à une marche vers quelque chose. C'est pas la même chose. Je croyais que le mouvement, que nous étions, comme nous disions, dans le sens de l'histoire. Et ça, ça explique tout. On accepte même un déni de justice si on se croit en train de changer le monde.
Pendant ce temps-là, pendant que ces intellectuels dont parle Dominique de Santi parlaient comme elle évoque aujourd'hui, à l'autre bout du monde, en Sibérie, il y avait des hommes qui se frottaient les mains, mais qui se frottaient les mains parce qu'il faisait moins 50 degrés. Et c'était le cas de Vladimir Ablamski. Vladimir Ablamski est décédé maintenant, mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer en 1996. C'était un homme qui avait simplement passé 25 ans de sa vie en camp. C'était le camp de Vikhorievka en Sibérie. C'est là que nous l'avions rencontré avec Zoé Varier. C'était un homme tout à fait étonnant qui, au cours de sa captivité, qui consistait à creuser et à travailler pour la construction de la ligne de chemin de fer qui traversait cette région, il avait réussi à fabriquer un appareil photo. C'était une prouesse extraordinaire. Il avait réussi à
fabriqué cet appareil photo avec lequel il a pris de très nombreuses photos qui constituent aujourd'hui un trésor extraordinaire, des milliers de photos qui constituent un trésor extraordinaire sur la vie de ce camp. J'ai eu la joie qu'il me prenne en photo et c'est une des plus jolies photos, des plus belles que je garde avec beaucoup d'émotion. Et avec Vladimir Ablamski en 96, l'été 1996, il nous avait conduit sur les traces de son camp, l'endroit où se trouvait son camp. Peu de choses avaient changé. Il y avait une chose extraordinaire dans sa vie, c'est que une fois la déstalinisation venue, une fois la libération venue, où elle est, aucune place où elle est. Au cours de ces années, la fiancée de 20 ans avant, évidemment, avait fait sa vie. Les parents étaient on ne sait où. Donc, voilà des gens libérés qui ne savaient pas où aller. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour un certain nombre d'entre eux? Eh bien, ils sont restés là. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Eh bien, il y avait les gardiens, il y avait les prisonniers. Eux étaient les zecs. Les zecs, ce sont les prisonniers du goulag. Et puis, il y avait leurs gardiens. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces gardiens et ces prisonniers? Eh bien, parfois, il y a eu des ententes par la force des choses. Et Vladimir Ablamski avait épousé la fille de son gardien. La fille, le zec, avait épousé la fille du gardien. C'est une histoire très riche, c'est une vie très pathétique que celle de Vladimir Ablamski. Et en hommage à sa mémoire, voilà une photo sonore en noir et blanc de 1996.
Je vous montrerai. Voilà en restant d'anciens camps, là, à droite. Encore ici à gauche, regardez un peu. Ici, donc, pour les officiers. Et là, celle-là, c'est un baraque des régimes spéciaux. Voilà.
On va aller la voir de près.
C'est dans le Moscou régime. Cette baraque-là, il était bâti par des zecs. Et c'était une prison dans les camps. Voilà, vous voyez?
Monsieur Ablamski, c'était pour construire le train qui passe là juste derrière nous.
C'était déjà construit. Nos zecs travaillaient dans le bois, coupaient le bois, apportaient-le. Puis, de là, de l'autre côté, on avait une usine où scier le bois en planche ou bien... On a mis sur le wagon, là.
Mais là, monsieur Ablamski, vous avez vécu combien de temps, vous?
J'ai été dans ce camp plusieurs fois. J'ai donc passé les derniers mois ici.
Monsieur Ablamski, je vois que vous êtes décoré au-dessus de votre appareil photo. Là, vous avez des décorations avec une faucille et un marteau, avec... C'est quoi
c'est
tout ça?
C'est un vétéran de travail. Mais vous savez... Moi, je ne les porterai pas, mais vous savez, il y a des gens qui veulent bien décorer, et comme ça, on croit qu'ils sont plus aisés. Et cet ancien-là, ce sont donc associations des gens qui étaient
victimes,
dans les camps.
Des victimes de la répression.
D'accord. Donc, oui. On porte des décorations pour se faire bien voir, ici, ça. Vous êtes quand même fier du travail que vous avez fait. Vous considérez que tout ça, c'est un peu vous qui avez fait ce travail.
Évidemment, justement, peut-être que j'ai resté ici parce que tout de même, parce que c'est ma patrie. C'est ma patrie. Et bien, c'est un solar, nom de Dieu. Que c'est un ancien sentinelle.
L'ancien gardien.
Oui,
parce que les gardiens sont restés eux aussi.
Oui, parce que nous vivons.
Tout le monde est resté.
Oui. Et ils sont jaloux de nous autres, que nous pouvons parler librement comme ça, qu'on a dit, et qu'on nous donnait une petite récompense. Des gens ici, il faut faire bien attention à ces gens-là. C'est terrible, vous savez, c'est que il reste encore des gens-là.
Donc, si je comprends bien, en août 1956, vous avez été libéré, mais vous êtes resté sur place.
J'ai resté sur place. Et nous avons travaillé tous dans les mêmes usines où nous avons travaillé étant des zecs. Pas comme des esclaves, mais presque.
Des esclaves.
parce que ici, les dirigeants de ces usines, c'était des anciens officiers qui dirigeaient les camps. Et ils prétendaient toujours que nous autres, nous sommes des ennemis du peuple, même que nous étions libérés. Voilà, vous voyez, ils recevaient des récompenses, des décorations, comme ça, pour notre travail, et ils ne toujours regardaient. Là, ce sont des ennemis du peuple, des espions. C'est terrible, vous savez.
Évidemment, on a célébré également la mort de Staline en Russie, et un sondage indique que plus de la moitié des Russes, c'est-à-dire 53%, pensent que Joseph Staline a joué un rôle positif dans l'histoire russe, contre 33% qui lui attribuent un rôle négatif. C'est un sondage de l'Institut Vestium qui a été publié mardi. 27% des sondés voient avant tout en Staline un tyran meurtrier, 27%, tandis que 20% le considèrent comme un dirigeant sage ayant mené l'Union soviétique au statut de superpuissance. Une certaine réhabilitation dans ce pays perturbé, en quête de repères, avec des dirigeants plus ou moins cynique. Voilà ce que ça donne à la valeur de sondage. Conclusion avec Dominique De Santi sur ce qui était une fois.
Cette religion dans laquelle nous étions, car c'était religieux, c'était tout à fait religieux, même avec ce que nous éprouvions pour l'Union soviétique symbolisée par Staline, c'était quand même un agenouillement devant une divinité. Et c'est pour des gens qui se voulaient laïcs et non religieux, c'était vraiment une contradiction fondamentale que nous avons mis des années à comprendre. Mais une fois qu'on a...
Et à en sortir.
Et à en sortir. Alors là, c'est... Oui, c'était compliqué. Parce que même... Bon, je suis sorti après le rapport Khrouchtchev, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé pour traître aux yeux de beaucoup de bons militants qui me l'ont écrit, qui me l'ont dit, ou qui faisaient semblant de ne pas me voir quand ils me voyaient dans la rue. Car c'était comme ça, en ce temps. Or, le communisme des années 50, c'était une foi.
Говорит Москва.
Je n'étais plus communiste, voilà. Ce qui ne voulait pas dire que j'avais changé de conviction et de désir de changer le monde. Et ni De Santi ni moi, jamais plus, n'avons adhéré à quoi que ce soit. On peut signer des pétitions, aller à des manifs, on peut, même au moment de la guerre d'Algérie, avoir des actions, mais jamais plus faire partie d'un parti politique.
Ça vous a vacciné?
Ah oui, un vaccin fort.
Merci à Dominique De Santi, merci à tous. Livre de Dominique De Santi, Ce que le siècle m'a dit, aux éditions Plomb, et La liberté nous aime encore, avec son époux Jean Toussaint De Santi, aux éditions Odile Jacob. Merci à Lina, merci aux archives du Parti communiste français. Traduction Aude Merlin et Zoé Varier, reportage et montage Thierry Scharf, technique aujourd'hui Christophe Goudin et Antoine Viossa. Assistante Anne de Giaferi, le répondeur c'est Christophe Imbert au 01 56 40 37 37. C'est votre répondeur qui attend vos messages, comme vous le savez. Assistant de réalisation Coy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. La musique que vous entendez, c'est Marc Perron qui l'a interprétée spécialement pour nous, pour cette série. On continue tout à l'heure avec Pierre Veil qui reçoit l'auteur des Svetlana Alexievitch, l'auteur des Les Cercueils de Zinc, qui est un spectacle sur le drame de Tchernobyl en Biélorussie. Et puis Sappho aussi, que vous retrouvez dans son émission. Nous, on se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis, toujours Staline, Stalingrad. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.